RCF.
Et il est 18h10 sur RCF Reims-Ardennes. Nous allons retrouver le 18-19 local. Cette semaine, il est présenté par Jean-Pierre Benoît.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vrai qu'en cette période de vacances, notre émission est diffusée à Reims, dans l'arrondissement de Reims, mais aussi, bien évidemment, dans le département des Ardennes. Nous sommes lundi, alors nous allons retrouver, bien entendu, nos chroniqueurs habituels du lundi, en particulier Claude Ruiz, qui est avec nous. Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
En pleine forme, Claude, je crois, ce soir.
Oh, presque.
Presque en pleine forme. Pour vous interroger tout à l'heure à vos côtés, elle fait sa première intervention sur notre radio, elle s'appelle Lorraine Poirel, elle vous interrogera et nous aidera un peu dans cette émission. Nous aurons l'occasion d'entendre un maire, votre maire nous parle, ce sera André Godin, le maire de Glaire, dans le département des Ardennes. Quelques nouvelles locales, en particulier nous reviendrons sur l'avenue du président de la République à Villers-Cotterêts, et puis nous reparlerons de Reims, ville des Sacres, et de la Voix des Sacres avec Jean-Marie Beaupuis, puis nous parlerons cinéma avec Jérôme Adam, qui est producteur réalisateur pour un film qui a pour titre « Tout pour être heureux ». Vous voyez, c'est un programme particulièrement alléchant, Claude.
Oui, c'est très alléchant et en plus, nous allons partir très loin.
Nous allons partir très loin. Eh bien, justement, Claude, vous allez nous entraîner dans un pays étranger. Alors, je vous laisse, bien sûr, aux questions de Lorraine qui est avec nous. Lorraine, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Vous êtes là pendant ces vacances et puis même peut-être pour la suite. Alors, je vous laisse interroger Claude Ruiz.
Alors, bonjour.
Bonjour Claude Ruiz. Alors nous allons aujourd'hui parler des aborigènes en Australie. Comment faire nation ? Comme d'habitude, nous allons voyager, observer un problème géopolitique connu en France mais qui résonne ailleurs. Cet ailleurs, c'est l'Australie, où la population a voté non le 14 octobre à un référendum qui souhaitait abolir les discriminations faites aux aborigènes.
Voilà, donc vous voyez notre regard, c'est un regard un petit peu étonné, hein, même si c'est très loin l'Australie. Pourquoi ? Pourquoi ce regard ? Parce que parmi les démocraties occidentales, l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme souvent en Europe, on cite les pays scandinaves, même si les choses changent un petit peu, ce sont des pays qui sont définis comme de très bons élèves en termes de droits humains, de lutte contre les inégalités. Or, la situation récente montre des possibilités de blocage, et c'est le cas, c'est ce qui est arrivé en Australie. En effet, le 14 octobre, les Australiens ont participé à un référendum pour faire avancer la réduction des inégalités vis-à-vis des aborigènes. Les aborigènes, ce sont les populations, on va dire, premières, même s'il y a beaucoup de discussions sur leur origine venant du continent asiatique. Ce sont des autochtones, ils sont là vraisemblablement depuis 50 000 ans. Or, il y a eu un refus massif de la majorité des 25 millions d'Australiens. Les aborigènes, pour resituer, sont 1 million en Australie. Mais vous le voyez, un refus un peu étonnant.
Alors, quelle était la question posée à ce référendum ?
Alors, la question, c'était accepter ou pas, bien entendu, d'amender la constitution australienne pour permettre la création d'un conseil, simplement, auprès duquel toutes les parties, tous les gens qui pourraient, les éléments de la société, toutes les parties pourraient se référer pour les questions aborigènes. Donc, en réalité, en considérant ces aborigènes comme le peuple originel. Donc, normalement, pas d'obstacle. Hein, c'est une culture ancienne, on l'a dit, ils sont là depuis longtemps. L'Australie, en plus, se vend en montrant ses actions protectrices au niveau international. On fait beaucoup de publicité. Tous les grands organismes publics montrent les actions qu'ils ont pour aider, en fin de compte, les aborigènes. Et il y a même des territoires particuliers, spécifiques. On s'intéresse pas, par contre, au niveau de vie, au chômage ou aux éléments, je dirais, perturbant la société aborigène.
Alors, quelles sont les raisons de ce refus ?
Alors, les raisons de ce refus, le principal argument, c'est nous sommes un peuple. D'accord ? Vous voyez donc le problème de la nation, comment faire nation. Nous sommes un peuple, donc il faut éviter la fragmentation, il faut éviter le morcellement. Ça s'est retrouvé aussi pas seulement en Australie, mais il y a eu le même problème, la réflexion au niveau de la constitution chilienne il y a quelques mois, où on se demandait, bon alors c'est qui les Chiliens? Et quand vous avez les Indiens du Sud, est-ce que ces Indiens en réalité, ils doivent avoir des droits particuliers, être protégés de façon particulière? Mais vous voyez, ça laisse en suspens presque tous les problèmes. Et en particulier, c'est étonnant parce que les aborigènes sont devenus citoyens. Alors vous me direz, ça fait pas longtemps, 1967. Mais avec un référendum à 97% qui les a intégrés comme citoyens. Donc pour eux, cette deuxième étape, un conseil particulier pour établir des relations, une sorte de médiateur en réalité, on s'aperçoit que c'était un processus de reconnaissance. Parce que c'était modifier un peu la vieille constitution de 1901 pour montrer un petit peu l'ancienneté. Mais il y a un frein, donner des pouvoirs spécifiques aux aborigènes. Le gouvernement, vous le voyez, s'est réfugié derrière ce référendum et fait le constat.
Et alors le vote a-t-il été homogène ?
Alors, c'est un État fédéral, l'Australie, vous le savez, c'est 6 États et 2 territoires particuliers. Ben, 7 participants, c'est-à-dire 7 États ou territoires, sur 8 ont voté non. Et pour que ça passe, il fallait qu'il y ait au moins 4 États qui votent oui, plus la majorité absolue des Australiens. Et là, la plupart des analystes mettent en avant que le rôle depuis longtemps des médias qui sont, et en particulier on cite toujours l'homme d'affaires Rupert Murdoch, qui a une sorte d'emprise totale depuis les années 60-70 sur les grands journaux face aux chaînes publiques qui ont du mal en fin de compte à s'imposer. Mais vous le voyez, on ne s'est pas centré sur les problèmes économiques et sociaux, c'est uniquement pour faire nation, il faut qu'il y ait un seul texte, quoi, c'est ça.
Et alors, quelle est la réponse de la population aborigène et les principales conséquences ?
Oui, en fin de compte, on va le voir au fur et à mesure, vous avez bien compris. Alors d'abord, les aborigènes, les principales associations, ont décidé un jour de deuil, un blackout. Donc ça a été fait. Donc, mais vous le voyez, une partie de la population aborigène qui est souvent très très marginalisée, surtout ceux qui sont dans des camps, à la fois protégés mais marginalisés, ça n'a pas trop d'impact sur l'économie et la société australienne en direct. Et surtout, c'est le fait que c'est une sorte de rencontre ratée pour un pays démocratique. Je vous rappelle que l'Australie, c'est le premier pays à avoir accordé le vote aux femmes en 1904. Donc vous voyez, c'est ancien. Et là, les solutions sont reportées. Bien entendu, ça veut dire que là, il y a un problème qui peut se poser aux Australiens, mais à tous les pays qui sont diversifiés ou qui ont des populations qui sont mal incluses ou mal intégrées. Et on peut citer que les sociétés européennes, pour certaines, elles sont aussi dans ce cas. Donc vous voyez, il y a toute une réflexion à mener sur diversité et inclusion. Il faut réfléchir comment on fait nation, et ça, j'ai pas toutes les réponses.
Merci Claude Ruiz d'avoir été avec nous et merci à Lorraine de vous avoir accompagné, de vous avoir interrogé ce soir. On aura l'occasion bien sûr de vous retrouver régulièrement sur l'antenne, même si je crois que vous allez faire quelques escapades en Amérique du Sud.
Oui, je vais, enfin c'est un élément paternel, je vais voir ma fille aînée qui est au Brésil, donc je vous raconterai peut-être du Brésil.
Eh bien on saura tout sur la vie privée de Claude Ruiz qui s'en va là-bas sous le soleil du Brésil ou d'Argentine. Il fait beau là-bas, vous êtes au courant?
Oui, les saisons sont inversées, je vous le rappelle. Oui. Vous voyez, on va très loin et donc là, ils vont rentrer dans l'été, ils sont au printemps.
Merci Claude Ruiz, à très bientôt sur RCF.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h20 en direct aujourd'hui, je vous propose de retrouver un maire, puisque vous le savez, tous les jours à midi, un maire à la fois de la région de Reims ou des Ardennes vient à notre rencontre. Et nous allons à sa rencontre pour découvrir à la fois sa commune et le personnage. Avec nous aujourd'hui, André Godin, il est maire de Glaire, dans le département des Ardennes. André Godin, bonjour.
Bien le bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a beaucoup de plaisir à aller dans les Ardennes, bien sûr, pour mieux connaître votre commune, Glaire. Alors évidemment, on a des auditeurs de la Marne ou même parfois dans les Ardennes qui n'ont pas une bonne idée de la géographie. Est-ce que vous pouvez nous situer où se trouve Glaire dans le département des Ardennes?
Glaire se trouve à proximité immédiate de la ville de Sedan. Si ça vous cause un peu plus.
Ah oui, un petit peu, oui. Mais on connaît Glaire, RCF, on connaît Glaire, mais c'est pour nos auditeurs.
Voilà, donc à proximité de Sedan, on occupe une superficie d'environ 657 hectares et notre commune regroupe trois villages. On a fait les communes nouvelles bien avant l'heure d'ailleurs. C'est Glaire, Ige et Villette.
Combien d'habitants en tout, à peu près, monsieur le maire?
860 environ.
860, mais c'est une commune déjà importante. Et vous êtes maire depuis plusieurs années?
Je suis maire depuis 1995. Mais préalablement, j'ai été élu en 1983. J'ai fait un mandat en tant que conseiller municipal et puis ensuite en tant qu'adjoint.
C'était un peu dans votre ADN, c'est devenu naturel d'être maire. On vous l'a proposé, vous avez été présenté, et puis bon, vous avez fait la route toute droite, quoi.
Oui, c'est aussi poussé par mon beau-père qui était adjoint à l'époque, et puis mon prédécesseur. Vous savez, je travaillais en DDE, donc on est censé avoir certaines compétences.
À la direction de l'équipement.
Voilà, direction départementale de l'équipement. Donc, je travaillais énormément pour le compte des communes, pour les aménagements de rues, les réseaux, l'urbanisme. Je travaillais sur différents domaines de compétences pour les communes. Et c'est pourquoi ils sont venus me démarcher pour que je rentre au conseil municipal.
Alors, André Gaudin, comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui? Quel type d'habitants? Des retraités, des jeunes, des agriculteurs, des gens qui travaillent à Sedan, à Charleville?
Alors, on a pas mal de retraités. On a une population vieillissante, malheureusement, comme de nombreuses communes ardennaises. Vous savez que le problème de notre département, c'est qu'on est en train de perdre pas mal de population et ça frappe notre commune. Là, je vous parlais de 860 habitants, on était à 980 en 1990. Alors qu'on n'arrête pas de construire, mais bon, on a de plus en plus de retraités et de plus en plus de familles monoparentales.
Vous construisez, il y a donc des arrivées nouvelles quand même dans votre commune.
On a des arrivées nouvelles ou des jeunes de la commune qui peuvent rester. Parce que le gros problème de maintenir la jeunesse, si vous aimez mieux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés au niveau de l'activité industrielle notamment. On a perdu énormément durant toutes ces décennies, comme tout le département des Ardennes d'ailleurs. Le textile a pratiquement disparu. Nous, on avait quand même l'entreprise sommaire qui était un gros pourvoyeur de main-d'œuvre. On avait Usinor, maintenant c'est...
Oui, mais je vous interromps encore, André Gaudin, mais vous êtes pas loin de Charleville. On peut aller à Charleville en voiture, on peut aller à Sedan, et puis s'établir à Glaire, parce que bon, c'est un beau cadre de vie, c'est un village, on préfère le village que d'aller en ville. Il y a toute une population pour ça.
Tout à fait, mais on a quand même des couples avec des enfants, mais de moins en moins. Des couples pour de moins en moins d'enfants. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de renouvellement. Quoi.
Alors, une question à propos des communautés de communes. Vous appartenez à une Ardennes Métropole, bien sûr, mais est-ce que le maire est encore le patron chez lui?
On a perdu de nombreuses compétences qui nous sont imposées d'ailleurs par la loi, parce qu'il faut savoir que notre commune, si vous aimez mieux, c'est toujours prononcé contre ces communautés, non pas contre les gens qui y travaillent, que les choses soient claires, mais contre le principe, parce que finalement, en perdant les compétences de proximité, on perd l'efficacité. Et c'est notre gros souci actuellement, c'est que finalement on a des grosses structures qui se mettent en place de par la loi et ça coûte beaucoup plus cher.
Je vous interromps encore, je ne fais que ça en ce moment parce que le temps passe très vite, il nous reste 3 minutes, donc ça va très vite. Est-ce que vous avez des projets en cours, André Gaudin, avec votre commune? Vous qui connaissez bien la voirie, toujours, vous avez deux, trois...
On a toujours, vous savez, tous les ans, on a pas mal d'aménagements de voirie qui viennent de se terminer et puis on continue. On a d'autres projets sur les pour finir la rénovation totale de nos rues. On a également une maison... pour appeler maison médicale, mais on n'a aucune aide parce qu'on n'a pas deux médecins. Si, on a de nombreux projets. On a, au niveau du monde associatif, on est toujours en train de développer un peu les aides. Et on vient de mettre en place, d'ailleurs, pour les jeunes, un terrain multisport. On a de nombreux projets encore, mais c'est le côté financier qui nous chagrine un peu, parce qu'on a de moins en moins d'aides et de plus en plus de contraintes financières. Tout coûte de plus en plus cher, on est de moins en moins aidé. En plus de ça, on a des contraintes administratives qui sont très lourdes. Hein. D'ailleurs, c'est en France...
C'est la paperasserie. Hein.
On parle d'une démocratie, mais c'est une démocratie administrative.
On aime la paperasse, ça c'est vrai. Alors, monsieur le maire...
Beaucoup trop de paperasse.
Monsieur le maire, comment peut-on conjuguer le fait d'être maire et la vie professionnelle? Bon, peut-être êtes-vous en retraite, je ne sais pas, monsieur le maire. Et puis, maire et puis vie familiale. Parce que c'est prenant d'être maire dans une commune.
Tout à fait. C'est très prenant. La bonne preuve, c'est que, vous savez, bon, en 95 et puis même en 83, puisque j'avais quand même pas mal d'activités au niveau de la mairie, j'avais des journées très, très bien remplies. J'arrivais quand même à me libérer souvent sur le coup de midi une petite heure pour voir un peu l'urgence des contraintes administratives à remplir. Je dis bien des contraintes parce qu'on en a énormément. Et puis le soir, je travaillais jusqu'à des 22-23 heures hein, pour faire ce que je n'avais pas le temps de faire la journée du fait de mon activité professionnelle. Hein. Mais il est vrai quand même, étant en retraite, en plus, si vous aimez mieux, je suis en retraite.
Oui, là c'est mieux.
Également la présidence du comité de la Tour, ça me quoi.
Alors, on va se quitter, ça va trop vite, je le sais bien, mais vous reviendrez, monsieur Godin, on aura l'occasion de vous retrouver, André Godin. Simplement, une question que je pose à tous les maires, tous les midis sur RCF. Êtes-vous un maire heureux, malgré tout ça?
Je suis un maire qui a des valeurs démocratiques en tête. Dire que je suis heureux, c'est pas vraiment le mot, mais je crois beaucoup à la démocratie et à la proximité avec la population. Et rien que ça, c'est un engagement. Depuis que je suis jeune, d'ailleurs,
merci.
Je m'engage dans différents mouvements. Hein. Je m'engage dans la vie publique, pas la vie politique.
Merci à André Godin, maire de Glaire, qui était avec nous. Glaire à quelques kilomètres de Sedan et de Charleville-Mézières dans le département des Ardennes. Sachez que demain, à midi, c'est Bertrand Boily, le maire de Breuil-sur-Velle, qui sera notre invité. Nous aurons bien sûr d'autres invités cette semaine, en particulier Anne Frépon du Mont-Dieu. Alors ça, c'est une émission à écouter, car le Mont-Dieu est une commune du département des Ardennes qui n'a que 14 habitants. Et Anne Frépon est une mère qui vraiment est très dynamique et vraiment 14 habitants, eh bien oui, elle y croit et elle est maire dans sa commune. On écoutera également Marie-Rose qui est maire de Murphy. Et puis la semaine prochaine, nous aurons des maires un peu différents. Le maire d'Inchères, monsieur Ben Simengo, madame Desveronnières, maire de Pomacle, François Garcia, le maire de Gendin, Jacqueline Lopata, la maire de Mont-sur-Courville. On ne va pas faire toute la liste, mais on a besoin des maires. Alors on va lancer un appel ce soir à nos auditeurs et à nos maires surtout. N'hésitez pas à nous donner vos coordonnées, à nous donner vos noms, votre mail. Vous pouvez pour cela nous envoyer un mail à direction.reims@rcf.fr et c'est avec beaucoup de plaisir que on vous répondra et puis que on va vous joindre pour que vous passiez à l'antenne. En attendant, le temps passe très vite et on s'approche de 18h30, l'heure du journal local et diocésain sur RCF Reims-Ardenne. Bonsoir, l'actualité en trois titres. À Villers-Cotterêts aujourd'hui, à 80 km de Reims, la Cité internationale de la langue française a été inaugurée par le président de la République. Nous y reviendrons. À Reims, le Palais du Thau va être officiellement rebaptisé Musée des Sacres. Où en est-on ? Dans quelques instants, nous allons retrouver Jocelyn Bourali, administrateur du Palais du Thau. Il est avec nous. Et puis, le successeur comme président du conseil départemental de la Marne de Christian Bruyen sera connu lundi prochain à l'issue d'un vote à l'hôtel du département le 6 novembre. Jean-Marc Rose, premier adjoint de Christian Bruyen, et Julien Valentin, un des vice-présidents, seront candidats pour terminer le mandat que Christian Bruyen avait commencé en 2021. Le nouveau président sera alors élu pour moins de 5 ans.
RCF, le journal, Jean-Pierre Benoît.
À noter que aujourd'hui, la Cité internationale de la langue française était inaugurée par Emmanuel Macron. François Ier à Villers-Cotterêts avait signé une ordonnance en 1539 et cette ordonnance avait imposé l'usage du français. Il faut dire que le président de la République a été à l'initiative de ce projet de rénovation du château où justement le roi François Ier avait signé cette ordonnance. Et bien évidemment, c'était un grand moment. Il faut dire que Villers-Cotterêts se trouve à 80 km de Reims. Alors c'est vrai qu'on ne voulait pas quelque chose de scolaire, ce n'est pas du tout le parti pris, a ajouté Alexandra Dromard, qui est chef du département des publics au Centre des Monuments Nationaux. Et il faut dire que c'est un musée de toute dernière génération avec des dispositifs multimédia disséminés tout au long du parcours et 1200 mètres carrés de visite. Bien entendu, l'ouverture, il aura lieu le jour de la Toussaint, mercredi. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. À 18h31, on va évoquer aussi le Palais du Thau, parce qu'il faut dire que le Palais du Thau, lui, va être officiellement rebaptisé Musée des Sacres. Alors pour en savoir plus, où en est-on ? Jocelyn Bourali, il est administrateur du Palais du Thau, il est en direct avec nous. Jocelyn Bourali, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes l'administrateur du Palais du Thau que tout le monde connaît, mais alors, il va y avoir un sacré changement. Et si je dis sacré changement, c'est peut-être un jeu de mots, puisque ça va être le Musée des Sacres, Jocelyn Bourali.
Oui, il faut dire que le palais fait peau neuve. Vous savez, il a fermé ses portes au public depuis le début de l'année 2023. Et nous travaillons à sa rénovation complète. Donc un travail de gros œuvres considérable et puis une refonte aussi du parcours scénographique. Et l'objectif, effectivement, à horizon de l'automne 2005, c'est de livrer au public rémois et au public national et international un nouveau musée. Et le fil rouge de ce musée, ce sera effectivement la thématique des sacres. Donc le musée des sacres à Reims.
Jocelyn Bourali, on peut dire que ce sont de très très gros travaux qui sont actuellement en cours au Palais du Thau.
Oui, puisque nous avons démarré les travaux sur les façades dès 2022 et ces travaux vont s'achever d'ici quelques mois. Et puis, quant aux intérieurs, il y a beaucoup à faire. Nous reprenons l'ensemble des réseaux. Un des objectifs de ces travaux, c'est quand même aussi d'améliorer le confort thermique à la fois pour nos propres agents, mais aussi et surtout peut-être pour le public. Donc nous aurons du chauffage au premier étage, enfin. Et nous implantons par ailleurs tout un plateau de réserve au deuxième étage du palais. Nous réalisons de nouveaux bureaux au troisième étage. Et comme je le disais, la scénographie de ce musée sera entièrement reprise.
Refonte,
c'est un peu vieillotte.
Refonte complète, Jocelyn Bourali, de la scénographie. Et vous avez dit tout récemment, c'est dans le journal L'Union de ce matin, ce sera un musée d'atmosphère. Alors ça mérite une explication.
Oui, musée d'atmosphère parce que au-delà de la présentation un peu formelle, forcément un peu solennelle compte tenu du sujet des collections, au-delà de la présentation du trésor de la cathédrale Notre-Dame de Reims, de nos chefs-d'œuvre de la statuaire issue également de la cathédrale. Ce que nous nous proposons de faire, c'est vraiment de permettre au public de vivre la cérémonie du sacre. Donc ça doit être une expérience non seulement intellectuelle, mais aussi une expérience, si vous voulez, qui passe par l'émotion. Donner à sentir, donner à entendre, donner à voir, pour comprendre ce qui se joue depuis le lever du roi jusqu'au moment de la communion, lors du sacre, et même au-delà, puisqu'on prolongera bien sûr avec le festin et au lendemain du sacre, la cavalcade, le toucher des écrouelles.
On va revivre en quelque sorte la cérémonie du sacre, mais en fait c'est extraordinaire, je vais être un peu caricatural, la fameuse salle à manger, enfin, là où avait lieu le repas royal qu'on voit au Palais du Thau encore aujourd'hui, qu'on voyait, et là vous allez remettre tout ça en valeur, en lumière.
Voilà, c'est l'objectif, et ce parcours aura une dimension qu'on aime appeler aujourd'hui immersive. Elle donnera vraiment l'occasion au public de se plonger dans l'atmosphère du sacre qui avait, je le disais, un caractère solennel, mais qui était aussi quand même une atmosphère de liesse, puisque on venait très nombreux et de loin dans le royaume de France pour assister au sacre des rois, et on sait que c'était des moments extrêmement festif. Donc la scénographie et tout le parcours que nous proposerons se feront l'écho de cette dimension festive.
Merci en tout cas Jocelyn Bourali d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes administrateur du Palais du Thau, et on aura l'occasion, je l'espère, de vous retrouver dans une émission beaucoup plus longue en direct avec nous, si vous l'acceptez, sur RCF.
Avec grand plaisir.
Pour vivre avec vous, vous l'avez écrit aussi, une aventure patrimoniale et humaine, mais forcément stimulante. On vous sent passionné, hein, Jocelyn Bourali.
Oui, c'est un beau défi, c'est un bel enjeu. Voilà, nous avons du pain sur la planche, mais le jeu en vaut la chandelle.
Merci Jocelyn Bourali, à bientôt, 18h36. Nous sommes en direct dans ce magazine et on va reparler cette fois d'élection, puisque vous le savez, le successeur de Christian Bruyen comme président du conseil départemental de la Marne sera connu, ce sera lundi prochain, le 6 novembre, à l'hôtel du département. Jean-Marc Rose est premier adjoint de Christian Bruyen et Julien Valentin, vice-président, ils seront candidats l'un et l'autre. Il pourrait y avoir éventuellement d'autres candidats, mais ils seront en tout cas ces deux-là, candidats pour terminer le mandat que Christian Bruyen avait conduit et avait commencé en 2021. Le nouveau président sera donc élu pour 5 ans ou pour moins de 5 ans. Ce sera lundi 6 novembre prochain. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Alors justement, puisque à l'instant on vient de parler du nouveau sénateur, Christian Bruyen, récemment élu, Christian Bruyen qui va céder son siège de président de conseil départemental, mais il y a une nouvelle sénatrice qui s'appelle Anne-Sophie Romagny, et elle va céder son fauteuil de maire de Bazancourt, Lorraine Poirel.
Oui, en effet, élue au Sénat, Anne-Sophie Romagny vient de céder son fauteuil de maire de Bazancourt à l'issue du conseil municipal. C'est Dominique Leclerc, premier adjoint, qui prendra le relais en attendant de nouvelles élections.
Eh bien, on aura l'occasion, bien sûr, de reprendre tout cela. À signaler qu'en page sportive, en football, après sa victoire face à Lorient samedi 1-0, Reims est cinquième au classement avec 17 points avant sa prochaine rencontre dimanche contre le Football Club de Nantes. Et notons que le samedi suivant, le 11 novembre, Reims rencontrera à Delaune le Paris Saint-Germain. À signaler que demain soir, dans le cadre de la Ligue des Nations en football féminin, toujours au stade de l'Aune, il y aura une rencontre entre la France et la Norvège à Reims, avec en tête d'affiche Eugénie Le Sommaire, 34 ans, meilleure buteuse de l'histoire des Flammes. Et tout de suite, on va regarder du côté du ciel avec la météo. Alors Lorraine, que nous prévoit Météo France pour demain ?
Alors demain, mardi, le ciel devrait être plus changeant qu'aujourd'hui. Des éclaircies sont attendues, mais la pluie pourrait être au rendez-vous. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un temps de Toussaint, car le soleil pourrait faire une apparition et même plusieurs. Les températures pour ce dernier jour d'octobre, des minimales le matin autour de 9 degrés à Charleville-Mézières, Sedan, Rethel et Vouziers, et 11 degrés à Reims et dans les environs de l'agglomération. Les températures maximales sont de l'ordre de 13 degrés dans les Ardennes, 15 degrés dans la Marne. Bref, des températures qui sont agréables pour la saison. Bonne fête demain à tous les Quentins.
Bonne fête à tous les Quentins et à tous les Quentins que vous connaissez, auditrices et auditeurs de RCF. À 18h40 ou presque, c'est l'heure d'achever ce journal, mais de continuer le magazine local et diocésain pendant ces vacances de Toussaint.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
À 18h40, donc, on avait beaucoup parlé patrimoine et histoire avec l'actualité à Villers-Cotterêts, avec le Palais du Thau et le futur Musée des Sacres. Eh bien, on va reparler de la Voie des Sacres cette fois, entre la cathédrale et Saint-Remy ou réciproquement. Et avec nous pour nous en parler, Jean-Marie Beaupuis, à propos d'une conférence qui va se dérouler prochainement. Jean-Marie Beaupuis, bonjour.
Bonjour.
Un événement, ce sera une conférence, mais avec pas mal d'intervenants. Ce sera jeudi 9 novembre à 18h30 à l'ICP, 6 rue du Lieutenant Erdouin, la Voie des Sacres, cathédrale, basilique. On précise ce qu'est la Voie des Sacres. Jean-Marie Beaupuis, pendant plusieurs années, vous vous êtes penché sur le sujet. Vous connaissez presque le sujet par cœur et vous vous êtes interrogé pourquoi et comment développer le produit sacre à Reims.
Oui, en effet, la ville de Reims est bien connue à l'extérieur de par sa cathédrale et de par son champagne, naturellement. Mais il n'y a pas qu'une cathédrale, il n'y a pas qu'une ville qui produit du champagne, n'est-ce pas? Et par contre, nous sommes la seule ville qui est, pour 1000 ans, de 816 à 1825, hébergée en quelque sorte les 33 sacres des rois de France. Et cela mérite d'être mieux connu.
Avec un itinéraire particulier,
tout à fait.
Cathédrale Saint-Remy.
Cathédrale Saint-Remy, puisqu'il fallait aller chercher la Sainte Ampoule pour pouvoir sacrer le roi à l'abbaye Saint-Remy et ensuite se rendre à la cathédrale avec cette Sainte Ampoule qui permettait au roi d'être reconnu après par non seulement toutes ses ouailles mais aussi tous les notables religieux et politiques, les comtes, les ducs de France.
Alors le but de cette conférence, c'est de sensibiliser toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à Reims à cette voie des sacres qui va être complètement reformatée. D'abord, sur le plan urbain, il y a un projet urbain qui s'organise dans un grand ensemble. Et là, de toute façon, ça va être transformé.
Absolument. Le maire et la présidente de Reims l'ont bien présenté déjà, publiquement. On sait que certains trottoirs seront élargis, qu'il y aura un peu plus de verdure qu'actuellement, etc. Donc l'aspect urbain de cette voie des sacres, Champs-y-Gambetta, n'est-ce pas, sera beaucoup mieux qualifié, beaucoup plus agréable à utiliser. Mais il faut lui donner maintenant sa dimension historique.
Dimension historique, on va y venir. Et puis peut-être aussi, vous l'avez remarqué en observant les touristes, une dimension à la fois plus ludique et plus culturelle. Et une deuxième intervention après la vôtre, celle d'Anselme Crouan, qui est étudiant à l'ICP, va consister à faire quelques propositions un peu plus ludiques et culturelles sur cet axe.
Tout à fait, parce que de la même manière que la mairie à Reims a décidé d'embellir et de rendre agréables les promenades sur un peu plus de 1000 mètres, et là maintenant, non seulement on déambule sur ces promenades, mais on peut se restaurer, il y a un manège, il y a des exercices sportifs, il y a des plans d'eau, donc c'est véritablement une déambulation agréable.
Et vous voudriez que ce soit la même chose entre la cathédrale et la basilique réciproquement.
Dans un autre format, bien entendu.
Absolument.
Oui, puisque nous avons de la matière avec 1000 ans d'histoire entre le sacre de Louis le Pieux et le dernier Charles X, 1000 ans d'histoire de France, qui se sont déroulés en passant par cet axe. Nous avons matière à présenter des vidéos, des illuminations, de quoi faire des selfies, bien entendu, des animations diverses, pour rendre véritablement ce trajet ludique et agréable.
Alors, dans cette conférence, dans cette rencontre que vous proposez, le jeudi 9 novembre à 18h30 à l'ICP 6 rue du Lieutenant Erdouin, vous présentez le produit sacre, on écoutera un étudiant nous parler des originalités en matière ludique et culturelle et puis bien sûr on revient, j'allais dire, au cœur du sujet avec l'histoire et Patrick Demuy et Camille Mangin vont en parler, c'est-à-dire le caractère médiéval quand même de cette...
Absolument, puisque nous avons là avec la cathédrale... point n'est besoin d'insister, et la basilique Saint-Remi, qui est, rappelons-le, la plus grand monument roman du nord de la Loire, qui est un édifice remarquable, non seulement pour des questions acoustiques, mais architecturales et autres. Donc il faut que, pour le touriste et pour les Rémois, et les gens de la région qui se promènent autour de la cathédrale et autour de la basilique, il faut leur donner à voir, il faut leur donner à avoir du plaisir, justement. Il faut que l'on crée des panneaux d'information, il faut que l'on crée des animations. Donc ce sera l'objet d'un certain nombre d'activités, de réunions au cours des semaines suivantes.
Faire vivre cette périphérie de la cathédrale et de la basilique, ce sera l'un des thèmes de cette intervention du jeudi 9 novembre à 18h30. Et puis il y a sur cet axe un édifice assez exceptionnel, c'est quand même le Palais du Thau, qui lui, et vous l'avez dit dans des émissions que vous avez produites et que vous continuez de produire sur RCF, c'est le Palais du Thau.
Le Palais du Thau.
Le Musée des Sacres.
Qui va devenir le Musée des Sacres. Donc les travaux sont engagés. Nous accueillerons lors de cette réunion prochaine son conservateur administrateur, Monsieur Jocelyn Bourali, qui fera un état des travaux. Alors le Palais du Thau, ce qui l'intéresse évidemment dans l'immédiat, c'est de mener à bien ses travaux. Ensuite, ce sera de réussir l'ouverture. Mais là, il bénéficiera de l'appui des monuments nationaux qui ont des services de marketing, de communication. Mais au-delà de cela, il est important que ce qui va se passer avec le Musée des Sacres au Palais du Thau soit connecté justement à la cathédrale et à la Voie des Sacres et à la basilique. Tout projet se tient dans cet ensemble.
Et là, Jocelyn Bourali, l'administrateur du Palais du Thau, va intervenir pour nous expliquer ce qu'on peut trouver sans doute dans ce futur musée et puis nous faire emprunter cet itinéraire. Encore que le Palais du Thau, je ne veux pas être mesquin, mais il n'est pas tout à fait dans l'axe. On est obligé de remonter un petit peu.
Oh, de quelques dizaines de mètres.
De quelques dizaines de mètres et on redescend ensuite.
Voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi le tourisme, et c'est important, les touristes viennent nombreux, et ils ont soif aujourd'hui.
Absolument.
Quelles que soient les générations, on vient pour voir Reims, le Champagne, la cathédrale, mais on vient aussi pour s'instruire, pour connaître une époque, pour faire mémoire. Donc il faut quand même donner, j'allais dire, du biscuit.
Exactement, vous ciblez là véritablement le cœur de notre opération, c'est-à-dire s'appuyer sur le fait qu'il y a une quête de sens en sens général de nos concitoyens. On le voit bien avec le sport qui est porté actuellement via les médias. On le voit avec l'aspect culinaire, la gastronomie. On le voit avec le champagne qui fait de l'œnotourisme. Donc il ne faut pas seulement offrir des pierres ou des bouteilles vides ou pleines. Il faut pouvoir donner du sens. Et c'est tout le but de cette opération d'ensemble, je répète, alors, donner du sens pour le touriste.
On pourrait imaginer sur cet axe avoir par exemple des panneaux avec des moyens technologiques modernes.
Absolument.
Et qui nous racontent un peu l'histoire des rois, qui
exactement
nous fasse voyager à l'intérieur de l'histoire, peut-être même en virtuel. Enfin, on peut faire des choses extraordinaires. Et puis peut-être des petits magasins, là c'est peut-être l'Ardennais qui vous parle, qui aime bien les petites choses, un petit peu cheap parfois, mais là, une petite cathédrale en moyenne réduite.
Tout à fait.
Voilà,
tout
vendre des épées en carton pour ceux qui veulent vivre au Moyen-Âge. Il y a toute une animation à faire.
Absolument. Alors prenons un exemple, les enseignes. Si vous allez par exemple dans le village d'Auvillé près d'Épernay, ils ont installé depuis des décennies plein d'enseignes comme le système médiéval sur les façades, voyez-vous. Eh bien, à Reims, nous avons déjà une dizaine ou une quinzaine de commerces et d'activités qui sont des sacs. Il y a l'hôtellerie des sacs, le champagne des sacs, l'auto-école des sacs, il y a même le plâtrier des sacs, etc. Non, la couturière des sacs. Donc, si ces gens-là s'installent sur la voie des sacs, chacun avec son enseigne, nous aurons un itinéraire très particulier.
Pour terminer, Jean-Marie Beaupuis, il y a des événements en 2025. Ils vont être présentés. Est-ce que vous pouvez nous les résumer très rapidement?
L'idée, si vous voulez, que nous proposons à nos différents partenaires est de faire en sorte qu'il y ait une communication conjointe pour que véritablement Reims soit une ville des sacs qui soit attractive avec un projet global. C'est-à-dire que vous viendrez à Reims pour remplir votre coffre de bouteilles de champagne, mais vous y passerez deux jours parce que vous aurez envie de visiter la Voie des Sacs, la cathédrale, voir un opéra au théâtre, etc. Donc il faut que l'on propose une conjonction d'événements, un ensemble d'événements et de visites qui puissent attirer les touristes à Reims en 2025.
Et en 2025, c'est l'anniversaire du sacre de
Charles X, qui a été donc le dernier roi.
Le dernier roi.
C'est cela.
Jean-Marie Beaupuis, on rappelle ce rendez-vous, la Voie des Sacres, cathédrale basilique ou basilique cathédrale. Elle se fait dans les deux sens. C'est jeudi 9 novembre, c'est à 18h30. C'est à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, 6CP, 6 rue du Lieutenant Erdouin.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h48, presque 18h49, on va parler cinéma. Vous aimez le cinéma, vous, Lorraine?
Ah oui, mais j'adore le cinéma.
Et d'ailleurs, un film d'ailleurs que vous avez déjà entendu parler, Tout pour être heureux, vous en avez déjà entendu parler?
Oui, plus ou moins, oui, ça me dit quelque chose.
Et justement, on va en savoir beaucoup plus avec son réalisateur, avec son producteur, Jérôme Adam, il est avec nous. Jérôme Adam, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que ce film, il est proposé dans de nombreuses villes et dans de nombreuses salles de cinéma en France.
Bah là, on en est à plus de 80 villes et salles de cinéma qui l'ont programmé. Ça peut être des villes de grande taille, Paris, Reims, Lyon, et puis des villes de taille moyenne, voire de petite taille, puisqu'on a même des villes de 2000 habitants qui nous ont programmé.
Alors il est vrai qu'à Reims, c'est aussi à l'occasion de la journée nationale de l'écoute, en particulier avec SOS Amitié et le soutien de nombreux acteurs locaux.
Les projections, effectivement, on essaye toujours de réunir des acteurs locaux autour du thème de la famille, de la santé, de l'éducation. Et à Reims, j'étais sollicité par SOS Amitié, qui joue un rôle important en termes d'écoute. Et justement, ils voulaient programmer le film pour la journée nationale de l'écoute. Et la soirée va avoir lieu donc le 16 novembre à 20h30. Et alors avec SOS Amitié, on ne s'est pas contenté d'organiser une projection, on veut aussi établir un record, puisqu'aujourd'hui la plus grande séance a été établie au Grand Rex à Paris. Et on aimerait bien s'approcher de ce record en remplissant la salle de 447 places au cinéma Opérins.
Jérôme Adam, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le cadre général de ce film? Parce que derrière le titre « Tout pour être heureux », point d'interrogation, on peut mettre beaucoup de choses.
Effectivement, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre les questions du milieu social, on peut mettre les questions d'amour qui reviennent souvent dans le film et lors des échanges avec le public. On peut mettre les questions d'argent, bien sûr, sur la table. Donc il y a plein de choses derrière cette notion de tout pour être heureux. Et puis aussi la notion de l'écoute. Et donc tous ces thèmes universels, l'amour, l'écoute, le sentiment d'impuissance, ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans le film et sur lesquels on va échanger lors du débat qui suit la projection. Et on se rend compte que finalement, que ce soit des jeunes publics, des étudiants ou des personnes plus âgées, mais il y a quand même beaucoup de souffrance, mais surtout besoin de libérer la parole et d'échanger autour de ces thématiques, de soulager des blessures au sein des familles.
Et parmi ces blessures, vous les avez peut-être déjà citées, ce sont des addictions en particulier, drogue, alcool, qui vraiment sèment quand même beaucoup de problèmes et de troubles à l'intérieur de toutes les familles, et les gens sont particulièrement démunis.
À l'origine du film, c'est un regard singulier sur les addictions, stupéfiants et alcool, et à travers ce regard singulier, finalement, on a libéré la parole au sein des familles. Donc c'est ça, c'est un point de départ assez original, atypique, puisque je suis allé à la rencontre des sœurs et des frères des personnes dépendantes, donc des fratries que l'on entend rarement. Et puis nous sommes arrivés au fil des rencontres à aborder ces thématiques universelles qui finalement permettent à toutes les familles de se reconnaître dans le film.
Vous avez trouvé vous-même, à titre personnel, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient touché par cette question, par la question des addictions et par la question du bonheur en général que chacun cherche mais que personne ne trouve toujours vraiment. Vous avez trouvé les personnes comment? Vous avez construit votre film de quelle manière?
Alors avant de commencer ce tournage de Tout pour être heureux, je donnais des conférences en entreprise sur le thème du travail en équipe et on m'interrogeait souvent sur mon projet ou mon futur projet et je parlais de ce film documentaire Tout pour être heureux. Et souvent, on me disait, nous, dans notre famille, ou alors on connaît telle ou telle famille qui est concernée. Et donc, j'ai été frappé, un, par le nombre de personnes qui étaient concernées, et deux, par la confiance qui m'était accordée, parce que ça faisait qu'une heure que je parlais à ces personnes, et elles me racontaient déjà pas mal de choses assez intimes et touchantes. Donc voilà, je me suis dit, il y a vraiment un film à faire, et je le vois lors des projections débat, il y a énormément de familles qui se sentent soulagés. Là encore cette semaine, sur le site du film, je recevais le témoignage d'une jeune étudiante à Metz qui me disait ouais, « je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions dans le film, mais ça m'a fait du bien ». Et voilà, c'est vraiment ça l'idée du film, c'est de faire du bien via le vecteur des émotions. Et on n'est pas du tout dans un discours scientifique, de sachant comme on dit, mais on est vraiment sur le quotidien des familles et sur les émotions.
Dans tout ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a, même forcément des situations fort différentes, mais est-ce qu'il y a quand même un dénominateur commun? Des gens qui se posent bien sûr les mêmes questions, mais des personnes aussi qui trouvent d'une certaine façon, par l'écoute ou par autre chose, des solutions ou en tout cas une manière de vivre qui soit positive.
Tout à fait. Alors l'idée, c'est d'être positif, comme vous le dites, et de ne pas être que dans le fatalisme. Et vous avez parlé d'écoute. Et l'écoute, c'est important. Et c'est aussi l'idée de mettre des mots sur ce que l'on ressent et de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Et rien que ces deux éléments, comprendre que nous ne sommes pas seuls et mettre des mots sur ce que l'on ressent, c'est énorme et on voit que ça soulage énormément les personnes. Ensuite, il y a bien sûr des sentiments universels, comme au départ le déni, le fait de fermer les yeux face à la réalité, le sentiment d'impuissance, le sentiment de culpabilité. Mais face à ces sentiments, j'ai envie de dire presque un peu négatifs, on arrive au final à souffler, à soulager ses blessures, à mettre des mots, comme je le disais, et c'est ça qui ressort à la fin du film.
Est-ce qu'il y a en fait des personnes qui, dans les témoignages que vous avez recueillis, s'en sortent ou, grâce à un comportement des autres, peuvent regarder plus haut, regarder plus loin, en tout cas regarder ailleurs que vers leur addiction?
Alors, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une solution quand on parle d'addiction. Ça, on pourra en débattre le 16 novembre. Donc, c'est difficile de donner une solution comme ça. Par contre, dire que les personnes trouvent des réponses lors des échanges, et ne serait-ce qu'en étant en lien avec les acteurs locaux, puisque le but de ces ciné-débats, c'est aussi de créer du lien avec les acteurs locaux. Et donc, le 16 novembre à Reims, il y aura beaucoup d'acteurs de la famille, beaucoup d'acteurs de la santé qui seront présents dans la salle. Et on crée des liens entre le grand public et ses acteurs, puisque le grand public peut avoir peur parfois d'aller vers ses acteurs, peut ne pas les connaître aussi, tout simplement. Et donc, ces passerelles sont aussi des moyens d'avancer et de trouver des solutions.
Le rendez-vous, on l'a dit, c'est le 16 novembre, c'est un jeudi, c'est à 20h30, c'est à Opérins. Vous voulez battre un record de participation, ça c'est pour la petite histoire. mais il y a quand même, à l'issue du film, il y a un débat, il y a une rencontre, c'est ça aussi, si je comprends bien.
Oui, il y a des échanges. Alors, on évite beaucoup le côté sachant, expert, professionnel, face au grand public. Et en général, lors des projections, je recommande aux experts, aux professionnels, d'être au milieu du public et pas d'être face au public. Donc moi, je me retrouve face au public avec une personne en général à côté de moi, un peu plus experte, on va dire, et le reste des professionnels est au milieu du grand public. Et ça crée vraiment des liens et ça facilite les échanges.
Et est-ce que dans les villes que vous avez déjà visitées, entre guillemets, est-ce qu'il y a une image que vous voulez retenir d'un témoignage ou d'un échange qui motiverait un petit peu nos amis de Reims, de la région, à venir parce que cet échange-là était fort et avait apporté quelque chose? On sent parfois quelque chose, j'allais dire des bonnes ondes.
Alors les bonnes ondes, oui, c'est exactement ça. Mais au bout de 80 villes, des témoignages, vous en doutez que j'en ai plein la tête. En vous écoutant, j'en ai deux là qui me sont revenus. Ce jeune de Clermont-Ferrand qui m'avait dit je voulais pas venir, j'avais peur de me faire chier et j'ai adoré. Voilà, donc il avait été très cash, mais c'est ça les échanges aussi, on est là pour se dire les choses. Donc voilà, j'avais peur de me faire chier, mais j'ai adoré. Et puis cette étudiante de Metz dont je parlais tout à l'heure, qui me disait, je pensais pas que j'allais être autant touchée, submergée par l'émotion, mais ça m'a fait du bien. Voilà, donc c'est un film, on peut dire que ça peut faire peur, mais finalement, ça libère et ça fait vraiment du bien au final. Donc je pense qu'il y a suffisamment de témoignages sur Allociné ou sur le site du film, tout pour être heureux.film, et j'ai pas envie d'être plus que ça, comment dire, trop vendeur, j'ai envie de dire, et il faut mieux aller se concentrer.
Voilà,
parce que le grand public,
merci. On a bien compris, Jérôme Adam. Rendez-vous jeudi 16 novembre, 20h30, Opérins, tout pour être heureux, point d'interrogation, et merci d'avoir été avec nous.
Merci pour cet échange.
On aura l'occasion, bien sûr, de retrouver dans les prochaines éditions Jérôme Adam qui reviendra nous parler de ce grand rendez-vous. Vous l'avez noté, le 16 novembre, c'est un problème de société. Beaucoup de personnes, beaucoup de familles sont touchées à la fois par les addictions et se posent tous, et sans être addicts, la question « Tout pour être heureux ?» avec un point d'interrogation. Il est 18h58, c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne soirée. À 19h, le journal national. Cette semaine, c'est la Toussaint. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler demain avec Patrick Demuy, qui nous parlera de la Toussaint dans l'histoire. Et puis, bien évidemment, les fêtes de la Toussaint. Et puis, il faut noter que le jour de la Toussaint, même si ce n'était pas le jour des morts, il y aura à 15h au cimetière de l'Ouest à Reims une prière pour les prêtres défunts autour de l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-d'Eaufort, et puis les vicaires généraux. Et tout le monde est invité à participer à ce rendez-vous le jour de la Toussaint à 15h. Cette rencontre a été placée pour permettre à l'archevêque de Reims de décoller, comme on dit tout de suite, ou de partir en terrain pour Lourdes, où va commencer l'assemblée plénière des évêques de France, dont il est d'ailleurs le président. À 18h59, c'est l'heure de nous quitter. On vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, 18-19. Alors vous, Lorraine, pour elle, c'est la première fois que vous êtes en direct sur notre antenne. Première impression ?
Ah bah c'était génial, merci Jean-Pierre.
Parce que je crois que vous aimez cette communication, vous avez eu une formation d'ailleurs dans ce domaine, et puis en plus, le sujet sur le film vous a particulièrement intéressé, parce que professionnellement, vous êtes aussi en ce moment, entre autres, branché sur ces questions de l'entreprise.
Exactement, je suis consultante en entreprise pour l'inclusion de personnes en situation de handicap. En effet.
Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée, à demain, avec Fabrice Gironnet à la mise en onde. On se retrouve pour du direct demain.